6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et comme tous les lundis, nous retrouvons notre camarade Esther Duflo. Bonjour Esther.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur au Collège de France, prix Nobel d'économie en 2019 et vous voulez nous parler d'élections.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous et joyeux lundi de Pâques. Effectivement, ce 1er avril, il est temps de faire un nouveau point en cette incroyable année d'élections. Comme nous en avions déjà parlé, en 2024, il y a eu ou il y aura des élections nationales dans des pays où habite la moitié des citoyens du monde. Hélas, bon nombre de ces élections ne sont ni libres ni justes et sont destinées à renforcer le pouvoir d'un dirigeant en place, souvent depuis trop longtemps. Nous avions évoqué le Pakistan et le Salvador en février comme ce type d'élections non libres. En mars, les élections en Russie s'inscrivent naturellement dans cette lignée. Les élections du 15-17 mars ont vu la réélection sans surprise de Vladimir Poutine avec 87% des voix et une participation de 74% du corps électoral, 7 points de plus que lors des dernières élections de 2018.
Oui, mais Esther, cette élection n'en était pas vraiment une.
Effectivement, Guillaume. Le Quai d'Orsay jugeait sobrement que les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique, je cite, n'étaient pas réunies. Pas de vrais candidats d'opposition, pas de débat, etc. La seule expression d'opposition possible fut ce qu'on a appelé le midi contre Poutine. Dans tout le pays, à l'appel de l'opposition, les citoyens sont venus voter exactement à midi, en une sorte de manifestation légale et dispersée, coordonnée par les réseaux sociaux. Ce qui est remarquable, c'est que bien que ce simulacre d'élection ait été planifié pour ne permettre aucune surprise, Poutine a quand même organisé une fraude électorale massive. Selon les médias russes indépendants, il y aurait pu y avoir jusqu'à 36 millions de voix volées sur un total de 76 millions d'électeurs. La fraude semblait viser non seulement le score de Poutine, bien sûr, mais aussi pour le rabaisser, celui du Parti des gens nouveaux, pourtant une créature totale du Kremlin, mais choisie par de nombreux Russes opposés à la guerre pour tenter de faire passer un message. La nécessité même de cette fraude, de même que le midi contre Poutine, de même que les manifestations autour de l'hommage à Navalny, montre la résilience du peuple russe, en même temps que la difficulté extrême de lutter contre un pouvoir absolu.
Bon, mais alors, y a-t-il de bonnes nouvelles pour la démocratie en mars ?
Eh bien, Guillaume, il y a la Turquie, où hier, les municipales ont été largement gagnées par l'opposition. Et puis, il y a l'élection du Sénégal la semaine dernière. D'abord parce qu'elle a eu lieu. Ce n'était pas évident jusqu'à la dernière minute. En juillet, le président Macky Sall, face à la pression de la rue, décidait finalement de ne pas se représenter, ce qui aurait été illégal d'ailleurs, mais mettait quand même son opposant principal, Ousmane Sonko, en prison, avec des centaines de ses lieutenants. Le 3 février, il tentait de faire repousser les élections prévues pour le 25 février. Mais la Cour suprême s'oppose à ce retard, il suit son ordre, et les élections ont finalement eu lieu le 24 mars. Ensuite, par le fait que l'opposition a pu participer. Ousmane Sonko restait inéligible, mais Macky Sall l'a amnistié et libéré de prison avec son candidat par proxy, Bassirou Diomaye Faye, juste avant les élections, et ils ont pu faire campagne. Et enfin, par le résultat. Faye, un ancien inspecteur des impôts de 46 ans, complet inconnu jusque-là, a gagné dès le premier tour contre le candidat adoubé par Macky Sall.
Faut-il s'en réjouir ?
Honnêtement, Guillaume, c'est trop tôt pour le dire. Il faut se réjouir du fait que l'imagination d'un homme fort pour rester au pouvoir n'ont pas abouti. Il faut se réjouir du fait que la Cour suprême ait eu le courage et la capacité de protéger les institutions. Il faut se réjouir du fait que les opposants aient pu sortir de prison et faire campagne. Il faut se réjouir du fait que le désir d'alternance de la population, notamment de la jeunesse, soit rempli par une élection et pas par un coup d'État militaire. Tout cela est le contraire de ce qui s'est passé dans de nombreux pays ces dernières années, particulièrement en Afrique de l'Ouest, mais pas seulement. On a vu en Inde que l'opposant principal de Modi est en prison aujourd'hui avec des élections dans quelques semaines. Donc tout ça, c'est très bien. Et il faut s'en réjouir. Mais en même temps, le PASTEF, le parti de Sonko et Faye, est socialement extrêmement conservateur, rétrograde sur les droits des femmes et l'homosexualité notamment. Et les ascensions brutales de fonctionnaires inconnus laissent un petit coup d'inquiétude. Sans vouloir faire aucun parallèle, en 2000, c'est un Poutine, jusque-là complètement inconnu dans les sondages, qui s'envolait brusquement pour gagner la présidentielle au premier tour. Il revient maintenant au leader de PASTEF d'éviter cela et de faire honneur à la vague populaire qui les a portés.
Merci Esther Duflo pour ce billet. 8h sur France Culture. Le journal.